Bien, merci, cher Cyril. Bon, vous avez la parole maintenant pour peut-être questionner ce projet, cette approche sur la question de la patrimonialisation.
C'est quand même bien de trouver des disques dans les bibliothèques, hein, quand même. Moi, chercher une place à la bibliothèque personnellement. Cherche un emploi dans ce temps-ci. Et du coup, si vous avez un job pour moi.
D'accord.
Bon, alors c'est bien, mais c'est pas bien, je sais pas, peut-être qu'on peut.
Moi, je parlais à pas mal de gens aujourd'hui qui voulaient pas venir vis-à-vis de ça, l'institutionnalisation du punk, un savoir commun et tout. Voilà, après, faut voir à quoi s'intéressent les institutions, en fait. Voilà.
Alors, au niveau de la bibliothèque, hein, je ne me considère pas comme étant un vecteur d'institutionnalisation de quoi que ce soit. L'idée, c'est aussi de conserver et une mémoire de quelque chose qui s'est passé. Alors là, c'est la période 78-83 qui est bien plus large que le punk, hein, puisque il y a des groupes, comme disait Robert Lapassade, qui bon, ils considèrent pas Killdozer est un groupe punk, mais un groupe rock. L'idée, c'est pas d'institutionnaliser, c'est aussi de créer une mémoire qui alors, donc tous les groupes, par exemple, des groupes qui ont agi dans les années 90, etc., qui se retrouvent parfois à ne même plus avoir d'enregistrement de leur propre production et qui sont malgré tout, qui restent à la bibliothèque. Alors c'est une mission qui normalement incombe à la Bibliothèque nationale de France hein, par le biais du dépôt légal, mais on sait bien que sur les milieux plutôt underground et do it yourself, le dépôt légal n'est pas systématiquement respecté. Et donc l'idée, c'est aussi de faire une mémoire d'un territoire, d'une vitalité culturelle à un moment, sans se réfléchir à se dire si ça institutionnalise quoi que ce soit, quoi.
Non, mais c'est bien.
Je crois que la bibliothèque municipale de Lyon avait cette vocation à être dépôt légal, non? Je n'ai pas
Alors,
compris,
on
enfin en
est.
partie localement.
C'est un peu particulier. On est pôle associé et on a une responsabilité dépôt légal, un dépôt légal imprimeur, et donc qui ne s'applique pas vraiment aux enregistrements sonores.
D'accord.
Donc c'est vraiment que les monographies qui sont imprimées en région.
D'accord. Moi, j'avais une question à Marion. Tu as évoqué l'exposition de Éric de Chassé, hein, qu'on connaît bien, qui a circulé. Mais qu'est-ce que tu penses du fait que dans ce type d'exposition, justement, ça fait beaucoup débat, on est presque uniquement sur la culture visuelle, sur l'esthétique punk, et pas du tout sur la musique, finalement. Donc, en termes de patrimonialisation, c'est sur l'objet, là, en fait, ma question, c'est est-ce que quand on s'intéresse à la patrimonialisation du punk, ça peut finalement ne s'intéresser, enfin, ça ne s'adresser qu'à cette dimension visuelle esthétique, selon toi, hein, par rapport à ce que tu
Eh
évoques, est-ce que
bien,
tu as.
en fait, Éric de Chassé parle justement d'une culture artistique globale. En fait, il a vraiment une approche de l'art et de reconsidérer ça comme un mouvement avant-gardiste de la fin du dernier le dernier du XXe siècle. Et en effet, moi, je pense que le punk est avant tout, le noyau du punk, c'est la musique. Et justement, pour considérer ces objets, il faut toujours les contextualiser avec ce cadre-là. Et il me semblait que il me semble que dans l'exposition, il y a des enregistrements, des vidéos qui sont mis en parallèle de ces objets-là, donc avec des extraits de concerts, notamment, et de cassettes audio.
Ah non, moi j'ai rien à dire à part que non, mais à part que, enfin, c'est quelque chose dont on a parlé avec Éric de Chassé. Il est venu à une journée d'études. Enfin, l'expo était contestable parce que justement, elle est d'un parti pris artistique qui est d'abord, en plus, ça commence à Bazooka, donc bien avant, en fait, bien avant 76, qui est quand même la date de naissance du punk. Enfin, faut bien trouver des dates, mais le parti pris est artistique. Et, bon, enfin, moi, j'y suis allée, en tout cas, à la Cité de la musique, et c'était ultra gênant de voir quasiment que de l'histoire de l'art, enfin que des visuels représentés. Il y avait la bande son, elle était très maigre et très très focalisée sur certains groupes. Et je pense que c'est une image très intellectualisé du punk, mais qui correspond aussi à, ben, au commissaire d'exposition, parce que l'expo ressemble au commissaire qui l'a fait. Enfin voilà. Donc, mais c'est sûr que c'est beaucoup plus compliqué, il me semble, d'exposer de la musique que d'exposer des visuels. Enfin, parce que la musique, c'est du matériau sonore. C'est effectivement ce que tu disais, c'est exposer une guitare, c'est bien rigolo, mais s'il n'y a pas d'histoire de la guitare, qui l'a jouée, comment on l'a jouée, comment elle se jouait, enfin, c'est on perd la moitié de la substance. Donc,
c'est ce que j'allais justement rajouter. C'est, je pense que sur beaucoup d'expositions musicales, on se retrouve sur des choses très visuelles, mais il suffit de regarder l'expo Bowie ou les choses comme ça. C'est parce que c'est très dur aussi d'exposer de la musique et du son.
Non, mais c'est dur d'exposer de la musique.
Malgré tout, c'est dur. Ça ne veut pas dire qu'on va pas essayer. Ça ne veut pas dire que. Oui, bien sûr. Mais c'est, en soi, ça ne suffira pas. Hein. Bah, si tu fais une exposition où tu fais que projeter du film sur des écrans, ça ne fait pas une exposition. Il y a une scénographie à faire et la scénographie de la musique est plus compliquée.
J'ai toute ma vie des expositions underground et je peux te dire que voilà quoi. C'est, non, il y a mille façons de faire les choses, hein. Il y a mille façons de représenter les choses. Bien sûr, il faut avoir l'esprit en même temps. C'est bien le problème, c'est que les gens sont vraiment matérialistes, alors ils vous collent des objets ou des images, et puis c'est de la récupération. De toute façon, c'est rarement les punks qui font des expositions sur les punks.
Alors, moi, je rappelle juste que ça ne sera pas une exposition sur le punk, hein, je le répète, ça sera sur le rock. Donc, il n'y aura pas de risque... Je pourrais juste finir ma phrase. Il n'y aura pas ce risque de, d'être sur une... Pardon ? Bon, bah alors je finis là.
Moi, c'est pour revenir sur l'exposition Europunk. Quand j'y étais allé, moi, j'avais cette idée, le punk, c'est DIY, etc. Et je m'attendais, je me souviens qu'il y avait, un studio, il y avait une sorte de mini-studio où on pouvait soi-disant répéter. Et moi, je m'attendais à ce que, soi-disant c'est punk, à ce que tout le monde puisse prendre des guitares ou jouer n'importe comment. Et en même temps, je m'étais dit, mais peut-être que ça se serait heurté ou pas à la structure qui accueillait l'exposition, à la scénographie ou même à l'ordre qu'on peut supposer dans un tel cas. Mais moi, l'expo, elle a réussi à me dégoûter des Sex Pistols parce que le truc tournait en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Et je m'attendais presque à quelque chose de peut-être d'un peu plus interactif ou, je sais pas, il y avait bien un endroit, fais-toi-même ton propre badge. Mais j'avais pas ce sentiment de fais-toi-même ta propre exposition. Ce que j'aurais peut-être vu en lien avec le mouvement.
Je sais pas s'il y a une réponse ou un commentaire. Non ? Peut-être sur la.
Une dernière petite question, mais.
Une question peut-être idiote et stupide, je disais, mais pourquoi finalement là, il faudrait pas plutôt faire des compilations ?
Ça existe déjà.
Bah oui, mais peut-être que c'est ça le truc, c'est d'essayer de faire des compilations de choses qui n'ont pas été enregistrées proprement.
Oui, ça, c'est le travail de Ray Coleman, de pouvoir...
Les compilations, en fait, bon, pour les gens qui s'intéressent à la musique, il y en a, mais des ressorties, par exemple, des rééditions de disques. Là, j'en parlais avec Bub, parce qu'on était tous les deux dans Goniaf Mouvement. Actuellement, il y a une réédition de tous les disques de ce label, sans même que le label originel soit cité. Non, il n'a pas disparu. Pas du tout. Non. Il est bien vivant.
Ouais, mais il a disparu la
certaine fois, plus ou moins. Non. Il est là. Mais voilà quoi. Enfin, bref, ce que je veux dire, c'est que je voulais aussi répondre à l'intervention juste avant sur. Tu parlais donc de cette expo, ça t'avait déçu et tout. Alors. Je comprends tout à fait. Et moi, je voulais juste dire un truc. Je sais pas comment l'exprimer vraiment, mais bon, j'ai vachement voyagé aux États-Unis. J'ai été vachement impliquée dans le mouvement. Donc là-bas, j'allais voir des gens de la scène, dans les labels, blablabla, machin et tout. Et un jour, j'étais à Los Angeles et je vais au MoCA. Je me suis dit, tiens, je vais aller voir un musée et tout. Et alors là, je tombe sur une exposition de Raymond Petitbon. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Raymond Petitbon. De Black Flag jusqu'à Sonic Youth. Bon, ben voilà. Là, par contre, on se rend compte que ça se monnaie, que ça prend de la valeur, etc. Donc là, c'est plus du punk rock, c'est du business. On rentre dans le business de l'art. Bon, chez eux, c'est normal. C'est ils sont, leur société, elle est comme ça. C'est-à-dire que bon, dès que les choses prennent de la valeur, tout de suite, ben on les cote. Voilà. Donc il y a toute une question. Moi, j'ai pas réfléchi à ça, mais en entendant la discussion, j'ai pensé à ça. Je me rappelle les expos que j'ai vus dans des endroits très institutionnalisés de la culture américaine, très youpi, bobo et compagnie. Et l'underground est en train de remonter. Moi, j'ai des tas d'amis de la scène de San Francisco, du label d'Alternative Tentacles et tout, où régulièrement, il y a des commémorations, les groupes se reforment, on refait du business, on fait des skateboards avec la pochette de tel disque, gna, gna, machin et tout. Et puis bon, bah voilà, c'est comme ça. Mais ouais, il faut y réfléchir.
Il y a énormément d'expositions aux États-Unis sur le punk, globalement.
Oui, c'est ça. En fait, je pensais au Grammy Museum pour Marguerite, parce que je ne sais pas si tu connais. Et en fait, je pense que la grande différence entre la France et les États-Unis, c'est le rapport à la classe. Et tant qu'en France, on n'aura pas réglé le rapport à la classe et vu les choses différemment, il ne pourra pas y avoir de forme de patrimonialisation qui fonctionne correctement, en fait.
Patrimoine, c'est quoi, en fait? Le mot, il fait un peu peur, quand même.
Ouais, donc patrie, donc qu'est-ce qu'il y a dans le mot patrimoine, en fait, c'est ça, hein, patrimoine, ça fait un peu flipper, ça me fait penser à Alain Juppé, tout ça. C'est toujours un peu spécial, en fait, de comparer les deux.
Le patrimoine, en fait, c'est quelque chose qu'on considère qui a une valeur assez importante pour être... Exactement. À transmettre et à protéger et à conserver, en fait, pour ensuite, par la suite, pouvoir être transmis... aux autres générations.
Bon, ça, c'est vachement bien, mais il me semble que dans patrimoine, il y a patrie, quoi, non?
Ah.
Et moi, il y a moine aussi, quoi. Non, je sais pas, ou pas, faudrait étudier l'étymologie du mot, je sais pas. On va savoir. Oh, on n'est pas là. Désolé.
Il me semble que ça vient du mot patrimonium en latin, qui veut dire l'héritage du père et de la mère, tout simplement.
Bon, ah oui, bah oui, patriarcat.
Bien, je pense qu'on va conclure en remerciant nos deux intervenants avec ces interventions et projets passionnants. Et merci beaucoup. Merci beaucoup.